Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de montrer comment accéder aux éléments stockés dans une base de données SQL depuis un programme Python. Jusqu'ici, je présentais les bases de données comme étant à part, d'une certaine manière, donc il est légitime de se poser la question comment on y accède depuis un programme. Il y a deux dimensions sur lesquelles on peut classer la manière d'accéder aux données de votre base de données. Une première dimension sur les modes d'appel, une dimension sur la construction de la requête. Vous avez deux modes d'appel et deux types de construction que je vais présenter maintenant. Vous avez deux modes d'appel qui sont intégrés et appelés. Dans un mode dit intégré, il faut imaginer que votre SQL, ici, s'insérerait dans du code Python. Vous aurez une sorte de langage hybride où, dans une même expression, vous pourriez utiliser du Python ici pour la boucle for et le print et au milieu placer une requête select pour obtenir les données de votre base de données. Et dans le mode appelé, vous avez quelque chose de semblable, mais l'accès à SQL se ferait en envoyant votre requête sous forme textuel. Ici, vous passeriez cette requête à une fonction ou à une méthode Python. Aujourd'hui, le mode intégré est un peu tombé en désuétude. Je le mentionne un peu à titre historique. Ce que vous rencontrez dans l'écrasante majorité des cas, c'est le mode appelé où, encore une fois, vous passez votre requête sous forme textuelle à une méthode ou fonction Python. Pour la construction de la requête, vous avez également deux modes, statique et dynamique. Dynamique, c'est peut-être le plus simple à voir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire votre chaîne de caractères dans une variable Python classique. Donc, vous pouvez par exemple commencer en mettant le préfixe de votre requête et ensuite, selon une condition côté Python, concaténer et ajouter la seconde partie de votre requête qui ici vous sert à ajouter une condition en utilisant votre variable côté Python. Ça, c'est la méthode dynamique. La méthode statique, ce sera plutôt que d'avoir cette construction explicitement en deux temps, d'avoir une seule chaîne de caractères. Ça ne veut pas dire qu'elle sera constante, cette chaîne de caractères, le fait qu'elle soit statique. Ça veut dire que vous allez identifier des points où vous pourrez insérer des valeurs qui viennent de votre programme Python. Un mot sur ce qu'on appelle les attaques par injection, qui sont des attaques assez communes des sites web. Et au fond, ce transparent va me servir à dire pourquoi il ne faut pas utiliser la méthode de construction dynamique. Imaginez que dans votre programme Python, vous construisiez votre requête de la manière suivante. Vous faites un select sur les utilisateurs. Vous imaginez que c'est la base de données. La base de données contient l'ensemble de vos utilisateurs. Users contient les logins et mots de passe, par exemple, et éventuellement d'autres informations sur vos utilisateurs. Et vous souhaitez effectuer une requête comme ceci pour, selon un login donné, récupérer les informations de cet utilisateur. Vous construisez votre requête dynamique en disant que ça commence par un select étoile from users, where le nom est égal à, entre guillemets pour la chaîne de caractères, la valeur de ma variable Python qui contient le nom de l'utilisateur. Pourquoi est-ce que c'est dangereux de faire ceci? Parce que si l'utilisateur de votre site est un peu malin, plutôt que de véritablement entrer son nom, il peut entrer une chaîne de caractères qui correspond à ceci, code fermante ou chaîne vide égale code ouvrante. Ce qui veut dire que vous, en retour, ce que vous exécuterez dans votre base de données, ce sera select étoile from where comme ci-dessus, mais vous voyez que ce qui a changé, c'est que votre condition, c'est le nom est égal à la chaîne vide ou la chaîne vide est égale à la chaîne vide. Or, cette deuxième partie de la condition est toujours vraie, donc la condition dans son ensemble est toujours vraie, et donc votre requête que vous imaginiez ici, vous renvoyez les informations sur un utilisateur, vous renverrez ici les informations sur tous les utilisateurs. Donc ça ne suffit pas nécessairement, ce que je montre là, à provoquer un problème, mais vous voyez que si la partie affichage affiche brutalement tout ce qu'elle reçoit après exécution de la requête SELECT, bah là, votre attaquant, votre pirate, le pirate de votre site web, a accès aux données de tous les utilisateurs. Deux solutions communes pour se prémunir de ces attaques par injection, c'est soit de valider les entrées. Ça correspondrait dans mon cas à vérifier que dans username, par exemple, j'ai pas d'espace ou j'ai pas de quote. Ça devrait me garantir que ce que je construirai ensuite ici sera bien formé et évitera ce genre de problème. Et une autre façon de faire, c'est de procéder par requête statique. Le sous-entendu étant que quand vous procédez par requête statique, c'est le moteur que vous utilisez qui va se charger de remplacer le point d'interrogation sur mon transparent précédent par la valeur de username et au passage va s'assurer de ne jamais produire des fragments de ce type-là. Va s'assurer que, par exemple, il produira uniquement une chaîne de caractères et pas quelque chose qui ici est une condition composite. À ce point, donc, on a une idée de la manière dont on peut construire une requête SQL et la manière dont on peut l'envoyer depuis le programme Python à la base de données. Ce n'est pas la fin de nos problèmes parce que vous constatez assez rapidement que les modèles des bases de données relationnelles et de la programmation objet sont sensiblement différents. Par exemple, même si en première approximation, vous pouvez penser qu'une case dans votre table, c'est la même chose qu'une variable membre ou un attribut dans votre objet, bah, ce n'est pas tout à fait le cas parce que, en objet, dans une variable membre, vous pouvez stocker quelque chose d'arbitrairement complexe. Dans une case de votre table, vous pouvez stocker qu'un type de données primitives de votre base de données. Un autre point sur lequel les deux modèles divergent, vous n'avez pas véritablement de notion de clé primaire dans le monde objet, ni de clé secondaire ou de clé étrangère. Et si on regarde de l'autre côté, vous avez en programmation orientée objet une notion très importante qui est la notion d'héritage. Vous n'avez pas d'équivalent du côté des bases de données relationnelles. Donc tout ça, ça fait qu'il va être relativement difficile de brancher des éléments SQL avec des éléments objets. Et j'utilise ce terme brancher à dessein parce que la manière dont on parle de ce type de problème, c'est en parlant de problème d'impédance ou impedance mismatch. L'idée étant bien que voilà, on ne peut pas brancher des choses d'impédance différentes. Il va falloir mettre quelque chose entre les deux. Donc on va devoir faire un certain nombre de conversions, d'accord, entre les données telles que stockées dans le monde objet et les données telles que stockées dans le monde relationnel. Le problème de ces conversions, c'est qu'elles sont mécaniques, répétitives, et donc comme tout ce qui est mécanique et répétitif, ça va être sujet à erreur. D'où l'introduction de ce qu'on appelle des ORM, qui sont des types de logiciels ou des librairies. ORM, c'est un acronyme pour Object Relational Mapper. Et vous voyez que le nom dit presque tout. Vous allez avoir un mapping, donc une fonction, au sens des conversions dont je parlais plus tôt, entre le modèle objet et le modèle relationnel. Et l'idée générale, par rapport à mon transparent précédent, c'est que je vais générer automatiquement les conversions entre mon modèle objet et mon modèle relationnel. Voilà à quoi ça va ressembler en deux petits exemples, enfin deux transparents sur un petit exemple, en utilisant une librairie qui s'appelle SQL Alchemy, qui est une librairie Python. Ce que vous allez commencer par faire côté Python, c'est décrire la structure de votre base de données, mais en définissant une classe Python. Donc ici, je définis une classe student. J'hérite du modèle qui est proposé par SQL Alchemy. Et ce que vous voyez au sein de ma classe student, c'est que je vais donner le nom de ma table côté SQL et le reste de ma déclaration ici, ce sont simplement les différentes colonnes de ma table. Et à chaque fois, pour chaque colonne, j'indique son type, donc entier pour ident, chaîne de caractères pour tout le reste, et pour indiquer que ident est également une clé primaire, je passe simplement ce paramètre optionnel en mettant primary key à true. Ça, ça me sert à décrire donc une table qui, en toute hypothèse, me sert à stocker les informations sur les étudiants avec un identifiant numérique et puis un certain nombre d'éléments textuels, nom de famille et prénom, mail et département de rattachement. Ça, ça me sert à décrire la structure de ma base de données depuis le côté Python. Et ensuite, je vais utiliser SQL Alchemy de la manière suivante. Je vais commencer par créer ce qui s'appelle un moteur qui va me servir de faire le lien entre mon programme Python et une base de données dont je vais donner la localisation ici par une chaîne de caractères. Et une fois que j'ai construit ce moteur, je peux faire plusieurs choses. Je peux demander par create all de créer l'ensemble des tables de mon modèle. Donc, par rapport à mon transparent précédent, ça va correspondre à exécuter automatiquement pour moi un create table students avec les déclarations de colonnes qui y correspondent. Et ensuite, une fois que j'aurai défini une session pour accéder aux données, je pourrai écrire du côté Python des requêtes. Et vous voyez que ça prendra la forme suivante. J'indique que je vais effectuer une requête sur ma section, sur ma session. Ce qui m'intéresse, ce sont les étudiants. Et je veux filtrer les étudiants selon la colonne student.département définie dans mon transparent précédent et ne garder que les lignes de ma table où ce département est égal à dep, qui est un paramètre reçu par ma fonction. Et ce qui va se passer, c'est que de la même manière que createAll ici a automatiquement engendré des instructions createTable côté SQL, ici, ce code query puis filter va automatiquement engendrer pour moi une requête select fromWhere, va l'envoyer à la base de données, récupérer les données et les transformer en instance de ma classe student du transparent précédent. Ce qui veut dire que lorsque j'appellerai findStudentsByDepartment, ce que j'obtiendrai, ce sera une liste Python, dont chaque élément sera une instance Python de la classe student de mon transparent précédent. Donc vous voyez que juste en faisant l'effort côté Python de déclarer la structure de ma table, SQL Alchemy va cacher pour moi tout ce qui est SQL, et je vais pouvoir manipuler l'ensemble de mes données depuis le monde Python. Ça peut poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est passé par SQL dans les vidéos précédentes. La grande idée, c'est que en fait, vous n'êtes pas capable d'utiliser SQL Alchemy de manière efficace si vous n'avez pas une idée du modèle sous-jacent. Donc ça justifie, entre guillemets, ce que j'ai raconté dans les vidéos précédentes. Simplement, encore une fois, le code de conversion entre ces deux modèles un peu différents, relationnel et objet, est pénible à écrire. Donc ne l'écrivez pas manuellement. Décrivez votre table côté Python, comme on a vu sur le transparent précédent, et ensuite, accédez-y depuis le monde Python en utilisant vos variables Python et des méthodes sur la session. Et tout ce code de conversion sera généré automatiquement par SQL Alchemy.